Grand Angle.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio Orient, le grand angle du jour. La guerre se poursuit au Moyen-Orient. Au Liban, Israël continue à bombarder la banlieue sud de Beyrouth. Dans le sud du pays, elle a lancé une opération contre le Hezbollah dans le but de créer une zone tampon. Face au conflit, l'État libanais et son armée apparaissent en difficulté. On en parle aujourd'hui avec notre invité, le général Éric Delaprelle, qui a conseillé les forces armées libanaises de 2022 à 2025. Bonjour.
Bonjour. Merci de m'accueillir.
Avec plaisir. Quel est le regard que vous portez sur la situation actuelle au Liban qui subit cette guerre ?
Alors permettez-moi d'abord d'avoir une pensée émue pour tous les militaires français qui sont passés au Liban depuis des décennies. Certains y ont laissé leur vie. On a à l'esprit l'attentat du Drakkar en 1983. Et c'est bien dans cet esprit-là que j'ai aussi accepté cette interview parce que la France aime le Liban. Ces soldats, ils sont présents depuis longtemps. Et c'est bien en tant que militaire français que pendant 3 ans, j'ai pu observer le Liban. Et donc le regard que j'y porte, c'est une évolution que j'ai vue en 3 ans. Où quand je suis arrivé, j'avais le sentiment, évidemment, de nombreux Libanais n'aimaient pas du tout le Hezbollah. Mais j'avais quand même un sentiment global que pour beaucoup de Libanais, l'ennemi, c'était le Sud. Que l'ennemi, c'était donc le pays du Sud, qu'il ne citait que très peu, et qu'on en avait un peu marre de voir régulièrement et de façon récurrente cet ennemi israélien rentrer dans le Liban. Et puis j'ai vu les mentalités évoluer avec le 7 octobre, et puis là j'ai des retours de beaucoup d'amis libanais qui me disent que depuis le début de la guerre en Iran et les frappes du Hezbollah sur Israël, il y a eu vraiment une inversion des mentalités, puisque les Libanais ont un peu démasqué la branche militaire du Hezbollah en disant finalement ces gens-là, leur priorité c'est l'Iran et pas le Liban.
Je voulais revenir avec vous sur l'exécutif libanais qui a interdit le 2 mars dernier les activités militaires du Hezbollah. Est-ce que vous pensez que l'État libanais, l'armée libanaise a les moyens aujourd'hui d'imposer cette décision au Hezbollah ?
Tout comme la demande d'expulsion de l'ambassadeur iranien, ce sont des signes très forts qui montrent la volonté du général Aoun, qui était l'ancien chef d'état-major des armées que j'ai connu à ce poste-là, quelqu'un qui était adoré par les militaires libanais. Je crois qu'il y a vraiment une volonté d'avancer avec, en permanence dans son esprit, le fait de se dire « je ne veux pas déstabiliser l'équilibre confessionnel de mon pays ». Et je ne veux pas mettre en avant les conditions d'une nouvelle guerre civile. Donc tout ça est toujours très compliqué. Et donc, il sait que cette armée libanaise, qui est la colonne vertébrale du pays, parce que c'est la dernière institution qui tient vraiment bien dans l'aspect régalien, il sait qu'il peut compter sur elle, mais il va falloir lui donner plus de moyens, parce que cette armée, elle a trop de missions, à mon avis. Lutte contre le narcotrafic. Ils ont ensuite des missions de lutte contre les groupes terroristes, quels qu'ils soient, et en particulier des groupes qui peuvent arriver de Syrie, des groupes pro-iraniens ou Daesh. Ils ont ensuite une grande vigilance vis-à-vis des camps palestiniens, dont ils veulent être certains que n'arrivent pas des déséquilibres qui créeraient évidemment des frictions confessionnelles. Ils sont aussi garants de la stabilité multiconfessionnelle. Donc, ils jouent un peu un rôle de police et gendarmerie sur le terrain. Tout ça avec des soldes, c'est-à-dire avec un salaire limité et bas. Pour vous en donner un exemple, moi, mon conducteur libanais, qui était un sous-officier, gagnait 250 $ par mois. Et il n'avait pas, contrairement aux officiers, de bon d'essence ou de voiture à sa disposition. Donc, c'était vraiment 250 $. Donc, quand on n'est pas beaucoup payé, la contrepartie, c'est qu'on travaille un peu moins. L'armée libanaise donne du temps pour que les gens puissent à côté être conducteurs de taxi, travailler dans l'épicerie. Donc quand vous avez beaucoup de missions et que vous n'êtes pas beaucoup payé, la motivation, elle est un peu difficile à avoir. Même si, encore une fois, moi j'ai vu que des gens qui étaient très motivés. Mais en plus, on vous dit, allez désarmer le Hezbollah, c'est-à-dire une mission dangereuse, pour laquelle vous n'êtes malheureusement pas beaucoup payé, et surtout une mission qui risque toujours de créer un petit déséquilibre confessionnel. Dans l'armée libanaise, il y a évidemment des chiites. Il y a des chiites qui ne sont pas du tout pour le Hezbollah, il y en a qui le sont vraisemblablement. Et il ne s'agit pas non plus, en tout cas il faut être suffisamment fin pour faire en sorte qu'il n'y ait pas un déséquilibre confessionnel qui vienne de cette friction. Nous devons aider cette armée libanaise qui est de toute façon la colonne vertébrale du pays et sans doute une des solutions pour régler la crise et faire que le Liban retrouve sa souveraineté.
Quel doit être, selon vous, dans ce contexte, le rôle de la France au Liban et celui de la communauté internationale ?
Alors d'abord, quel est le rôle qu'a la France ? Parce que la France, elle joue un rôle très fort. Moi, j'ai observé pendant 3 ans vraiment des balais diplomatiques réguliers, des allers-retours, de l'investissement de nos diplomates, de nos hommes politiques qui venaient très régulièrement aux nouvelles de ce Liban. Une volonté de la France avec les moyens budgétaires et le contexte budgétaire qu'on connaît, qui est aussi grande que possible, avec des livraisons régulières de véhicules. Moi, j'ai vu énormément de véhicules de l'avant blindé livrés aux forces libanaises. Et puis, la place de la France, elle est dans le domaine que je maîtrise le mieux, militaire. Il y a donc les 700 soldats français qui portent casque bleu au sud du Liban. Il y a une cinquantaine de Français qui forment les militaires libanais sur ces véhicules de l'avant blindé. Il y a 5 coopérants militaires qui, pour moi, sont un peu le cœur de cette coopération, qui sont 5 officiers insérés dans l'armée libanaise et qui, au jour le jour, écoutent leurs homologues libanais, prennent en compte les demandes et les relaient vers Paris. Il y a d'autres pays qui aident le Liban. Il y a des pays du Golfe qui aident d'ailleurs à payer un peu la solde. Il y a les États-Unis. Il y a d'autres pays qui sont présents avec nous, ne serait-ce que la FINUL, la Force intérimaire des Nations Unies au sud du Liban. Il doit y avoir plus d'une vingtaine de nationalités qui participent à ça. Donc la communauté internationale, je pense qu'elle a bien compris que ce Liban est vraiment un exemple très singulier. C'est le cœur battant du monde, le Liban. Il faut mettre la pression sur la communauté internationale pour que cette armée libanaise soit payée correctement et qu'elle se concentre sur ce travail. Et ensuite, à l'exemple de la France, continuer à aider, à importer du matériel, à les soutenir, à comprendre les besoins. Pas les besoins qu'on imagine à Paris, à Washington ou à Rome, mais les besoins dont ils ont vraiment besoin.
Vous avez mentionné le rôle de la FINUL. Quel avenir pour cette force au Liban ?
Alors, vous savez que pour le moment, ce qui est prévu, c'est un départ de la FINUL à échéance 2027. Ce qui amènera sans doute à mettre en place une autre force, diplomatique évidemment, mais aussi militaire sur le terrain, pour toujours être l'interface entre Israël et le Liban. On voit bien aujourd'hui que ces deux pays ne se parlent pas directement. Aujourd'hui, c'est la FINUL, c'est des officiers de la FINUL qui font le lien entre les militaires libanais et les militaires israéliens, qui ne se parlent pas directement. Et c'est d'ailleurs souvent des officiers français qui font ça. Donc, on voit bien que tant que les Israéliens et les Libanais ne seront pas arrivés dans un cadre où ils ne se parlent pas directement, il faudra toujours, au milieu, une force d'interposition, de surveillance, de compte-rendu à l'ONU pour dire « voilà ce qui se passe sur le terrain ».
Éric Delaprelle, est-ce que vous pensez que l'opération actuelle au sud Liban de l'armée israélienne pourrait s'étendre au-delà, au nord du Litani ou à l'échelle du pays ?
Alors, techniquement, c'est possible. D'ailleurs, Israël l'a déjà fait. Et Israël l'ayant fait jusqu'à Beyrouth, c'est bien de là, d'ailleurs, qu'est venue une forme d'avènement du Hezbollah. C'est-à-dire que dès qu'Israël est reparti, le Hezbollah a dit « on a gagné » et c'est devenu le mouvement de la résistance. Donc, pratiquement, c'est possible pour Israël de remonter jusqu'à Beyrouth. Il me semble que pragmatiquement, ils ne le feront pas. D'abord parce que vous l'avez vu hier, il y a eu 2 morts dans l'armée israélienne. C'est-à-dire que c'est quand même une forme de bourbier. C'est un terrain que connaît mieux le Hezbollah qu'Israël. Et donc, autant je pense qu'il y a une vraie volonté d'aller, entre guillemets, nettoyer jusqu'au Litani pour être certain qu'il n'y ait plus de tunnels, de missiles prêts à partir. Donc ça, je pense qu'Israël le fera et le fera de façon radicale. Autant je ne crois pas beaucoup qu'Israël reprendra le risque de redonner écho un mouvement qui montrera qu'il a résisté le jour où Israël devra repartir, ce qui arrivera vraisemblablement. Enfin, je l'espère pour le Liban, parce que la priorité, c'est la souveraineté du Liban.
Est-ce que vous pensez qu'ils vont donc finir par se retirer ?
Oui, je pense qu'ils se retireront, peut-être dans un temps chronologique long. On l'a vu l'année dernière, ils ont gardé 5 ou 6 points au sud du Liban, des points hauts pour observer. Donc toute la question va être de savoir quelle est la stratégie qu'ils utilisent pour quitter le Liban, tout en gardant un œil sur les zones qui leur apparaissent comme les plus importantes.
Quelle issue à cette guerre, selon vous? Quels sont les différents scénarios pour que ça s'arrête?
Alors, le Liban, et c'est pour ça qu'on l'aime, c'est pas un terme très diplomatique, mais c'est un terme qui est important parce qu'il y a vraiment de l'amour de la France pour le Liban. Et pourquoi on l'aime? Et ça va répondre à votre question. On l'aime parce que le Liban, c'est la porte d'entrée vers l'Orient. C'est le décodeur entre l'Orient et l'Occident. Le Liban, c'est le monde en miniature. C'est le monde sur la taille d'un grand département français. Ce Liban, c'est vraiment un pays d'abord à préserver, et c'est un pays qui en a vu d'autres. C'est un pays qui est devenu malheureusement un laboratoire de crise, mais on doit l'observer en tant que tel et voir les réponses que le Liban apporte à la crise, parce que j'estime que ce pays nous devance dans la crise de façon générale, l'Occident, et qu'il a beaucoup de choses à nous apporter. Et donc moi, je suis assez optimiste sur cette capacité des Libanais qui vivent en permanence la devise de l'association française qui s'appelle Les Gueules Cassées. Leur devise, c'est « sourire quand même ». Et les Libanais, ils ont cette capacité d'absorber, de voir les choses venir. Ils sont capables de laisser passer l'orage et ensuite de reconstruire. Donc moi, je suis assez optimiste. J'espère que le Hezbollah militaire, j'entends, suffisamment défait pour qu'on regagne une bonne période de paix. La vraie question, c'est quels sont les moyens du Hezbollah au nord du Litani et au nord de Beyrouth? Est-ce qu'on a dans ces montagnes-là des missiles qui sont en place, etc.? Et est-ce que dans les décennies qui viennent, le Hezbollah ne reprendra pas du poil de la bête à partir du nord du Liban pour aller taper Israël?
Merci, Général
de Laprelle. Merci de votre invitation.
Général de Laprelle, conseiller des forces libanaises de 2022 à 2025, je le rappelle. Chers auditeurs, merci pour votre écoute et très bonne suite de programme sur Radio Orient.
C'était Grand Angle.